Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les grandes gueules du sport dominicales prennent l'antenne sur RMC. Votre émission d'humeur, de débat et d'opinion autour de l'actualité sportive de la semaine écoulée et du week-end. On est ensemble en direct jusqu'à midi ou alors à n'importe quelle heure. Et si vous aimez, vous savez, picorer l'émission en podcast.
Bien sûr, en podcast.
Les GG, c'est toute l'année. Donc, tout l'été.
Impeccable.
Et comme à chaque fois, c'est un plaisir d'être les premiers relayeurs d'une grande journée de sport sur l'antenne. Mais
exactement, Simon.
Allez, on va y aller. On est aussi de tous y aller. Ah si, tout le monde, la fine équipe.
Et pour m'accompagner autour de moi jusqu'à midi, une grande gueule qui, comme Wout van Aert, a une tronche à finir sa bière avant les autres. Jérôme Coppel, salut Jérôme.
Ouf,
salut,
j'ai cru que
c'était
moi.
Ça, c'est un bel accueil. Hein.
Salut Jérôme.
Comment ça va Jérôme?
Ça va bien. Et vous les amis?
Ça va très bien. Une grande gueule qui, comme Wout van Aert, a toujours été un cadre dans la descente, Christophe Cessieux.
Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Je te le dis, les vacances arrivent, donc ça va descendre très très bien.
T'étais pas déjà en vacances depuis 3 semaines, Christophe?
Ouais, un petit peu, ouais. Un peu comme toi depuis 10 ans, quoi. Pareil.
Ouais, moi, on appelle ça le chômage par intermittence. Une grande gueule qui, comme Wout van Aert, a toujours rêvé de briller en dernière semaine, mais ça a moins bien marché, Marion Bartoli.
Oui, on suit quand même parfois. Écoute. Quelquefois sur un malentendu.
Une grande gueule qui, comme Wout van Aert, a toujours aimé le verre, mais elle s'est à pied et au comptoir. Marie Martineau.
Elle est très bonne. Merci Simon, j'apprécie. Top, top. Oui,
oui, on a tous ces petites marottes. On a un petit peu sauté le sommaire, mais la une des GG ce dimanche, évidemment. On boucle la grande boucle dans un instant. On fait le bilan calmement de cette édition 2022. Restera-t-elle dans l'histoire? Les grandes gueules nous diront également quels sont pour elles les héros de ce Tour de France. La seconde des GG sera, elle, consacrée à nos Français. Leur tour est-il raté? Le cyclisme français est-il en crise? Cyril Guimard n'est pas tendre avec nos coureurs tricolores. Il sera avec nous à partir de 11h. Entre-temps, à 10h, une grosse parenthèse mécanique. Grand Prix de France ce dimanche au Castellet. Esteban Ocon, le pilote de l'écurie Alpine, lance un appel. Il faut absolument conserver un Grand Prix sur notre sol. On en parlera avec Jean-Luc Roy et on se penchera sur le cas de Théo Pourchaire, pépite française qui symbolise la difficulté pour nos jeunes talents à arriver au plus haut niveau. Elles n'ont plus été assez auteurs de compétition depuis 2012 et les Jeux de Londres à l'Euro. C'est une première. Les Bleus de l'équipe de France féminine se sont qualifiés pour les demi-finales de l'Euro de football hier soir en battant les Pays-Bas après prolongation. Peut-on parler d'acte fondateur? Votre double ration de zapping, on s'en fout pas. Les GG et vous, en fin d'émission, toutes vos rubriques habituelles. On est ensemble pour 3 heures de direct et de débat. Les grandes gueules du sport, ça démarre tout de suite sur RMC.
La une des grandes gueules du sport.
À la lutte avec Pogacar qui va s'imposer juste devant Vingegaard. Il est maillot jaune, il est encore vainqueur d'étape. Quelle finale incroyable. Michael Matthews, lui, va peut-être mettre le feu à cette arrivée avec Pogacar dans sa roue. Michael Matthews est costaud à la lutte avec Van Aert qui s'impose ici devant Michael Matthews et Pogacar.
Il est désormais à 3 km 800 de l'arrivée. Il fournit tous les efforts. Incroyable performance de Vingegaard aujourd'hui, Jérôme.
Quand Pogacar est parti au fossé, est parti à la chute, il a attendu par respect Pogacar, il lui a serré la main et puis dans la dernière montée, il a accéléré, il a lâché Pogacar et maintenant il peut lever les bras sur la ligne d'arrivée d'Otakam. Il n'y a qu'un homme seul en jaune, il s'appelle Jonas Vingegaard.
Michael Matthews qui est dans la ligne droite, qui lève le bras gauche, la victoire est là pour l'Australien.
Marie, je te laisse toujours quelques secondes pour... J'aurais peut-être pas dû. Pogacar, Vingegaard, Pogacar, c'est le résumé de ce Tour de France 2022. Même si c'est un peu vite oublié le départ au Danemark, les pavés, les meilleurs coureurs du monde à la lutte chaque jour pour la victoire, l'OVNI, Van Aert, sans cesse à l'attaque. Et la difficulté générale d'une course ultra sélective. Mais oui, un troisième du général à 8 minutes du vainqueur, un top 10 éparpillé à 20 minutes du maillot jaune et deux coureurs trop forts, beaucoup trop forts pour les autres. On ne sait plus très bien finalement. Alors, sur la musique qui fout les jetons, je vous pose cette question, les grandes gueules. Est-ce que oui ou non, cette édition 2022 restera dans l'histoire? Marie Martineau.
Alors, oui pour moi.
Oui pour Marie Martineau. Marion Bartoli.
Oui.
Oui pour Marion Bartoli. Christophe Cessieux.
Non, je pense pas.
Non pour Christophe Cessieux. Ça a été bien vendu pourtant hein, à l'antenne.
C'est vrai.
Jérôme Coppel.
Un grand oui pour moi.
Un grand oui pour Jérôme Coppel. Avant de vous laisser la parole pour ce débat, je vais me tourner vers Christophe, évidemment, qui a couvert chaque étape, chaque jour, la préparation de cette course. Toi qui couvrais ta 109e édition du Tour de France, Christophe.
C'est toute la différence avec nous, mon petit bonhomme.
Maurice Garin s'est entré dans l'histoire, pas Vingegaard, mon petit bonhomme.
Ouais, toi qui as de quoi comparer. Que retiens-tu de cette cuvée 2022?
Ce que je retiens de cette cuvée, je retiens un tour extraordinaire. Je dis qu'il ne rentrera pas dans l'histoire parce que pour rentrer dans l'histoire, il faut qu'il y ait des renversements de situation à la dernière minute. Rappelez-vous par exemple en 2020 quand Pogacar dépossède Roglic de son maillot dans le dernier contre la montre dans la planche des belles filles. Ça, évidemment, cette image, elle restera dans la tête de tout le monde parce que c'était à 24 heures de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Rappelez-vous aussi de l'édition 2019 lorsque Thibaut et Alaphilippe qui nous ont régalé pendant des semaines avec le maillot jaune sur les épaules de Alaphilippe pendant 12 jours perd son maillot jaune l'avant-veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées et Thibaut Pinot abandonne. Là évidemment on se souvient et tout le monde se souviendra de cette édition 2019, l'édition
dramaturgie quoi.
Voilà, il faut la dramaturgie, il faut un renversement de situation à la dernière minute. Là, on a eu une étape extraordinaire, parce que je dis que le Tour dans son ensemble ne restera pas dans l'histoire. En revanche, l'étape à l'arrivée au col du Granon restera évidemment dans la légende. Elle fait partie des grands moments du Tour de France. Rappelez-vous, peut-être que tu t'en souviens, Simon, Poulidor en Thiel en 64, en 68.
Oui,
on
s'en souvient très bien.
Ah, la team, c'était mieux avant. Mais tu me manques tellement, Christophe, il faut que tu reviennes.
C'était toujours mieux avant, effectivement.
Oui, mais non, mais... Voilà,
on était ensemble, Christophe, effectivement.
Ben oui, on était là tous les deux, mon petit bonhomme. Non, mais voilà, cette étape dans le col du Granon, là, évidemment, elle restera dans la légende. Parce que, rappelez-vous, cette incroyable mano à mano entre la formation de Jumbo d'un côté et Pogacar de l'autre, qui a attaqué, qui a harcelé, qui répond, et qui, au bout du compte, finalement, comme un boxeur sonné, finit dans les cordes et se fait taper son maillot jaune par Vingegaard. Ça, cette image, on la gardera dans les mémoires. Mais malheureusement, il n'y a pas eu derrière de rebondissement qui aurait pu faire que ce tour reste dans les grands. Grande cuvée du Tour de France.
Mais alors justement, je me tourne vers les trois autres, Marion, Marie et Jérôme. Il apporte un petit peu de l'eau à votre moulin, Christophe. Non, cette édition ne restera pas dans l'histoire, mais pourtant, il y a quand même une étape qui restera dans la légende, forcément. J'imagine que Jérôme, ça doit effectivement inscrire cette édition avec ce mano à mano, ce duel qui a nourri ces duels, ils nourrissent l'histoire et la légende du Tour, donc forcément cette édition 2022 pour toi elle est inscrite déjà dans la grande histoire avec un grand H du Tour de France.
Oui, bien sûr, parce que moi je pense un peu à l'inverse de Christophe, justement 2020, moi je me rappelle quasiment que du chrono de la planche des belles filles finalement. Là où Pogacar va renverser Roglic. Mais moi, je trouve que sur ce Tour de France, alors bien sûr, il y a cette étape 11. Moi, j'ai aucun souvenir de que ça soit les tours que j'ai fait sur le vélo ou regarder ou commenter, etc. J'ai aucun souvenir d'une étape comme on a eu vers le Granon. C'est-à-dire les Cador qui commencent à se faire la guerre à 65 km de l'arrivée. Il y en a eu partout sur cette étape-là. Le maillot jaune qui connaît une défaillance énorme. Et puis l'équipe Jumbo et Vingegaard qui retournent le Tour de France. Mais au-delà de ça, il y a eu plein d'autres choses. Je veux dire, Pogacar, quand il gagne ses deux tours à la suite, on se dit, ça y est, il est parti pour régner 5 ans ou 10 ans sur le Tour de France. Et finalement, c'est pas ça cette année. On a un Tour de France qui va connaître sa vitesse moyenne la plus élevée. Ça veut dire que ça roule très vite. On a eu de la castagne tous les jours. On a une équipe Jumbo complètement incroyable, une force collective énorme. Et à l'inverse de d'habitude, on en a connu des forces collectives avant, des équipes qui étaient très fortes collectivement. Bien sûr, on va penser à Armstrong, etc. Mais Sky, par exemple, c'était la même chose. Ils avaient un collectif énorme, mais dès qu'ils avaient le maillot jaune, ils assommaient la concurrence sur la première étape de montagne et après ils défendaient. L'équipe Jumbo, ils n'ont pas défendu. Ils ont envoyé Van Aert tous les jours à la castagne. Même Vingegaard, on l'a encore vu hier au chrono. Le mec, il a 3 minutes 26 d'avance. Il a deux doigts de se casser la gueule parce que peut-être il veut aller gagner l'étape. Ils n'ont jamais été sur la défensive, l'équipe Jumbo Visma. Et puis, on avoue de Van Aert qui va être super combatif, qui va battre le record du nombre de points au maillot vert. C'est une édition de tous les records, donc pour moi elle va rester dans les annales.
Marion, tu souscris à ce que vient de dire
Totalement. Jérôme. Pour moi, vraiment, exactement, je suis sur la même idée que Jérôme. Effectivement, les vitesses de pointe, même les vitesses moyennes, sont juste ahurissantes. Enfin, l'étape que Christophe Laporte remporte, il est quand même à 48,6 km/h de moyenne. Enfin, c'est juste monstrueux. Et il y a des écarts qui n'ont jamais quasiment existé dans un Tour de France. Franck Bonamour, qui l'année dernière était encore quasiment à l'avant du Tour de France, il a fini son calvaire dans le camion balai à 22 minutes de retard. Donc, ces écarts-là, ces capacités à attaquer dès le début, avec Wout van Aert, avec d'autres aussi, c'est cette non-défense, en fait, cette action tous les jours de faire le tour comme si c'était une classique chaque jour. Et c'est ça qui, pour moi, a changé auparavant. Il y avait vraiment une gestion du Tour de France où chaque étape était calculée. Il y avait des étapes où on n'y allait pas trop, des étapes où on conservait son énergie, des étapes où vraiment on avait tout misé pour assommer le tour. Là, cette année, j'ai l'impression que chaque étape, c'était comme une classique et qu'il fallait la remporter, que tout le monde voulait la remporter. Et ça, pour moi, cette animation permanente, ça m'a beaucoup plus enclin à suivre le tour cette année. Je vais être vraiment honnête, les autres années, j'avais l'impression que dès qu'il y avait quelqu'un qui s'emparait du maillot jaune et que voilà, il commençait à dominer, à part effectivement Pogacar ou Roglic, mais sinon c'était assez plié assez rapidement, alors que là, pas du tout cette année. Et je trouve
Marion, ça a été plié dès la 11e étape. Il n'y a plus de suspense depuis. Tout s'est réglé effectivement dans cette étape du Granon.
Que Pogacar va avoir la capacité de revenir. Tu as envie de voir si les Français vont être capables d'aller gagner l'étape. Il n'a pas été capable, mais il aurait pu.
Le Tour de France, c'est pas que la victoire finale, Christophe, c'est aussi les victoires d'étapes. On a eu de la bagarre que le Tour de France était plié à la 11e étape. Après, on a eu de la bagarre sur toutes les étapes.
Et d'accord, mais pour qu'un Tour de France rentre dans la légende dans notre pays, il faut aussi que les Français soient à l'attaque tous les jours. Or, les Français, mis à part Christophe Laporte avant-hier, je suis désolé, mais ils ont rarement été dans le coup pour aller chercher une victoire d'étape. Et puis les écarts, vous parlez d'écarts incroyables. Et justement, quand il y a des écarts, il n'y a pas beaucoup de suspense. Quand tu vois un mec complètement au fond de la classe. Hier, au départ du chrono, on était tous là à se dire « Oh là là, il n'y a aucun suspense, on va s'ennuyer tout l'après-midi. » Et on s'est ennuyé quasiment jusqu'aux 5 derniers kilomètres quand il y a eu ce petit suspense entre Van Aert et Vingegaard. Mis à part ça, tout était joué à l'avance. Et un Tour de France, pour qu'il rentre dans la légende, il faut que jusqu'à la dernière minute, on sente le frisson, on sente qu'il puisse se passer quelque chose. Hier, on savait que rien ne pouvait se passer.
Donc ça veut dire que les grands Tours de France de l'époque d'Armstrong ne rentrent pas dans la légende parce que c'était plié du début jusqu'à la fin.
Il rentre pas dans la légende, évidemment qu'il rentre pas dans la légende.
Ce Dino non plus alors.
Pardon ?
Ce Dino non plus alors. Parce qu'il avait le Tour de France gagné bien avant la veille de Paris.
Ouais, mon petit mémé, c'était un Français, donc ça change tout.
Donc si Vingegaard était français, c'était un tour d'anthologie. On a quand même 4 Français dans le top 15, on a une victoire d'étape, ils sont pas passés au travers.
Mais le problème, c'est qu'on n'a toujours pas de successeur à Hinault depuis 1985. Donc effectivement, si un Français avait gagné aujourd'hui, là, c'était un tour qui entrait dans l'histoire. Je pense que je serais mort depuis longtemps quand un Français.
Elle est pas tout seul à prendre, pas tout seul.
Elle est copain.
La dernière, mais la dernière, c'est pas dans la légende.
On n'a pas encore entendu Marie Martineau. Marie. Le tour, l'histoire du tour, ce n'est pas que l'histoire pour les Français et pour la France. L'histoire du tour, elle appartient à tous les pays, à tous les amoureux de cyclisme.
Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Le truc, c'est que je comprends le point de vue de Christophe, mais moi qui suis le vélo depuis moins longtemps, et il a fallu que je fasse beaucoup d'efforts pour m'y accrocher parce que justement, je comprenais pas. Je comprenais pas les dynamiques, je comprenais pas comment ça fonctionnait, et je trouvais ça long, mou. J'avais l'impression que je pouvais faire la sieste et ne regarder que les 20 derniers kilomètres. Et je pense que je représente quand même pas mal de Français qui se passionnent quand même, mais sur la fin du tour, sur la fin des étapes. Et je trouve que ce tour-là, justement, il va rester dans les annales parce qu'il a fallu qu'on se mette dedans tout de suite. Il y a plein d'étapes où ça a démarré très tôt, où ça partait très tôt. La Jumbo qui roulait sans défendre son maillot, mais juste pour vraiment aller chercher d'autres choses en plus, c'est pareil, j'avais jamais compris ça. Et au contraire, je comprenais pas, je posais des questions autour de moi en disant, mais pourquoi l'équipe maillot jaune, ils font pas plus d'attaques, pourquoi? Et on me dit, ah, mais parce qu'il faut défendre le maillot jaune, une fois que tu l'as, tu le gardes, il faut le défendre. Et ça me paraissait absurde d'être les meilleurs et de jouer tout le temps la défensive. Donc, rien que pour ça, je trouve que ce tour, il a déjoué les pronostics, il nous a fait tous mentir, on s'est tous posés sur Pogacar, puis on s'est tous dit, ah bah non, ça sera quelqu'un d'autre. Et finalement, on s'est posé la question pendant toute une semaine de se dire, est-ce qu'il va être capable, Vingegaard, de le garder? Ça fait beaucoup de scénarii, qui nous ont tenus en haleine. Tu vois ce que je veux dire, Christophe, par rapport à ça ?
Ouais, enfin, on t'a vibré dans combien d'étapes? Effectivement, l'étape du col du Granon, ça rentrera dans la légende, on en parlait tout à l'heure, celle d'Otakam aussi.
Mais dans les Pyrénées, tu vois la descente d'Otakam, la chute, enfin, toute cette descente
m'a tenu hors d'haleine,
c'est
deux
incroyable.
Étapes extraordinaires.
Et j'ai aussi vu le côté. Tu vois, deux mecs qui se tirent la bourre, mais qui ont un respect fabuleux l'un pour l'autre. Oui, c'est-à-dire que je m'attendais pas du tout à ce check, au fait qu'ils s'attendent et tout après la chute de Pogacar. Waouh, ça m'a fait vraiment, ça m'a ramené quelque chose d'humain dans le vélo. Tu
dans
vois
les deux sens, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a Pogacar qui vient féliciter Vingegaard, alors que Vingegaard vient de le battre. Il y a Vingegaard qui attend sous Pogacar après la chute du Slovène. C'est vrai, Christophe, je veux pas m'allier à aux trois autres, mais qu'est-ce que finalement on demande? Très souvent, on avait un coureur qui dominait et justement, on se disait mais pourquoi les autres équipes ne l'attaquent pas? Pourquoi on n'est pas tout en œuvre pour l'attaquer? Là, il y a eu la stratégie du harcèlement dans le Galibier avant le Granon par les Jumbo. Il y a eu ce Pogacar qu'on disait invincible pendant les 10 premiers jours de course qui a finalement été renversé. On a un nouveau vainqueur, on a un duel qui annonce des années de bataille pour les prochaines éditions du Tour de France. Bon, j'ai envie de dire que...
Qu'est-ce qui nous manque?
Qu'est-ce qui vous manque exactement, monsieur Cessieux, pour lui faire une petite place dans l'histoire du Tour?
Il nous manque peut-être un peu d'émotion hier, un peu d'émotion lorsqu'un Français peut se bagarrer pour aller chercher la victoire finale. Je dis pas que je me suis ennuyé dans ce Tour de France, loin de là, je me suis régalé, mais je dis simplement qu'il ne rentrera pas dans l'histoire, dans la légende des plus grands Tours de France. Voilà, c'est la seule différence. Évidemment qu'on s'est régalé pendant trois semaines, on s'est pas ennuyé avec Jérôme, même si on a roupillé un peu quand même l'après-midi de temps en temps. Surtout moi, tu sais que je dors 5 heures par jour quand je suis à l'antenne. C'est pour ça que heureusement qu'il y a Jérôme et Cyril, parce qu'autrement on s'emmerderait.
Non mais Christophe, l'étape des pavés où Pogacar, il n'a pas encore le maillot jaune, mais il attaque, c'est le bazar dans l'équipe Jumbo avec la crevaison de Vingegaard. Dans 10-15 ans, l'image de Vingegaard qui est en train d'attendre Pogacar après sa chute, qui serre la main, on la reverra encore cette image dans 15 ans, dans 20 ans. C'est pas les 21 étapes qui vont rester dans la légende, mais il n'y a aucun Tour de France qui est comme ça. Il y a toujours des étapes où on s'ennuie, où on s'embête, et il y a des étapes qui marquent l'histoire. Pour moi, l'étape des pavés, l'étape du Granon, cette image de Vingegaard. On a quand même Vingegaard qui est à deux doigts de partir à la faute. Deux virages plus tard, c'est Pogacar qui est par terre. Après, ils s'attendent. Après, on a Van Aert qui va faire le train pour Vingegaard. Ça explose de partout. Ça, c'est aussi une étape d'anthologie comme le Granon. Il y a quand même eu des moments super forts dans ce Tour.
Mais il y a eu des moments très très forts dans le Tour. Je te le dis, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a eu des grandes étapes, mais je continue à dire que ce Tour restera pas dans la légende parce que il a manqué quelque chose sur la fin. C'est tout. Il y a pas eu de suspense depuis la 11e étape. Il y a eu effectivement des tentatives. Il y a eu effectivement Vingegaard qui a failli aller au tapis à deux reprises, l'autre jour et encore hier. Mais ça l'a pas fait. Donc voilà.
Est-ce que Christophe, le fait qu'on ait vu des lancements toute la semaine sur la suite de ce Tour avec un Tour féminin ne le fera pas aussi entrer dans la légende parce qu'il a quelque part une suite à ce Tour masculin?
Parce qu'il y a un Tour féminin derrière
et on en a parlé tout le long de ce Tour-là aussi, je me demande.
Voilà, je sais pas, j'ai pas trop d'idées là-dessus, j'ai pas réfléchi à ça, effectivement, tu me poses une colle. On va voir si le Tour féminin qui débutera cet après-midi va entrer dans la légende aussi. Mais tu sais, sur le Tour masculin, on n'a pas beaucoup entendu parler du Tour féminin pour l'instant, jusqu'à présent. Évidemment, aujourd'hui, ça va changer, mais on était quand même focus sur la course des garçons.
Et ouais, là, je comprends.
On va commencer à s'intéresser à la course des filles. Mais je pense pas qu'on puisse mettre les deux en interaction pour parler d'un Tour de légende.
Le Tour de France homme et le Tour de France femme, première édition, qui se croisent effectivement aujourd'hui, puisque la première étape du Tour de France femme précédera celle des hommes, de la Tour Eiffel aux Champs-Élysées, direction la planche des belles filles pour les 144 coureuses du peloton de ce premier Tour de France femme. Évidemment, vous avez quelques minutes pour y réfléchir, mon cher Christophe, à la suggestion de Marie, l'hypothèse de Marie Martineau, parce que les grandes gueules reviennent dans un instant. On va continuer avec vous de regarder dans le rétro de ce Tour de France. On vous a fait bosser un petit peu, on vous a demandé qui pour vous était le héros de ce Tour de France 2022. Réponse dans un instant sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
À 9h30, c'est le retour des grandes gueules du sport. On est ensemble en direct jusqu'à midi, en compagnie aujourd'hui de Marie Martineau, Marion Bartoli et des membres de notre Dream Team Vélo. Émission spéciale oblige, on boucle la grande boucle. Christophe Cessieux, Jérôme Coppel nous accompagnent jusqu'à 10h. Dans un quart d'heure, vous retrouverez le zapping des GG. On s'en fout pas. Avec, tenez, on en avait parlé dans les GG, la sélection chinoise qui ne disputera finalement pas le prochain championnat de France de volley-ball. Vous nous direz comment vous prenez ce petit revirement. Mais pour l'instant, on continue la distribution des maillots distinctifs version grande gueule.
En attaquant le Lautaret, le Tour de France abordait une étape décisive.
Charlie Gaulle monte, derrière bas à Montès.
Un choc terrible et les deux frères Bobek étaient transportés en clinique.
Avec question simple, ce sont vos choix qui vont créer le débat, les GG. Quels sont pour vous les héros de ce Tour de France? Les noms, je veux des noms. Un tour de table avant de vous laisser développer. Les auditeurs, vous pouvez également nous appeler au 32-16 si vous voulez participer à ce débat, les GG et vous, évidemment, en fin d'émission, ou si vous voulez intervenir. On vous a donc demandé de choisir un héros de ce Tour de France. Marie Martineau, qui as-tu choisi?
J'ai choisi Valentin Madouas.
Valentin Madouas, ça c'est un choix que je valide. Marion Bartoli.
Wout Van Aert.
Wout Van Aert pour Marion. Christophe Cessieux.
Fabio Jakobsen.
Fabio Jakobsen, tiens, pourquoi pas. Jérôme Coppel.
Christophe Laporte.
Ah, tiens.
Ah, mais français.
Christophe Laporte. Alors, qui va y aller en premier? Christophe, on peut être un petit peu étonné par ce choix de Fabio Jakobsen. Je suis curieux de savoir pourquoi, selon toi, le sprinter de la Quick-Step est le héros que tu retiens de ce Tour de France 2022.
Bah parce que rappelez-vous, il y a deux ans, le Tour de Pologne, on était au mois d'août 2020, Fabio Jakobsen se fait envoyer dans les barrières de sécurité par Groenewegen. Il en ressort avec 130 points de suture au visage, deux jours de coma, des fractures multiples, un visage complètement défiguré, plus de dents, huit mois de récupération pour essayer de convalescence pour essayer de revenir au niveau. Et deux ans plus tard, et bien après de multiples victoires, il se présente sur les routes de ce Tour de France et pour son premier sprint sur les routes du Tour, il remporte l'étape. C'était à Nyborg, en tout début de Tour de France. Ça, c'est le premier acte de Jakobsen et c'est le premier acte qui explique pourquoi j'ai fait ce choix. Et puis, il y a aussi la bagarre, la bataille. Parce qu'on voit effectivement toujours les premiers, les maillots jaunes, les maillots verts, les Van Aert qui gagnent des étapes. Mais on regarde aussi à la fin et on attend les héros, les vrais héros, les forçats, ceux qui, comme Jakobsen, arrivent à la dernière seconde, 15 secondes avant les délais. C'était l'autre jour à Peyragudes, encouragé par ses coéquipiers qui sont derrière la ligne et qui l'encouragent. Il reste 15 secondes pour franchir la ligne, sinon il est éjecté du Tour de France et il fournit cet effort incroyable pour franchir la ligne et il s'écroule derrière les balustrades, un peu à l'image de ce qui s'était passé deux ans plus tôt. Pour moi, c'est le vrai héros de ce Tour de France, Jakobsen.
Est-ce qu'il y a de réactions dans les grandes gueules?
C'est la classe. Oui, moi je le suis.
Je crois que tu as réussi à convaincre tout le monde, mon cher Christophe. Ça va être bien vendu. Alors, le héros de Jérôme Coppel, c'est Christophe Laporte. C'est pas parce qu'il t'a fait gagner un pari avec tes copains
en partie.
C'est grâce à lui qu'on va bouffer gratos ce soir.
Christophe Laporte m'a fait gagner le Tour de France des paris, Simon, quand même. J'étais obligé de le mettre.
Dans la bande de l'Intégral Tour et de l'After Tour. Effectivement, tu as écœuré tous tes copains de la Dream Team. Christophe Laporte, donc le seul vainqueur français d'étape dans ce Tour de France 2022. Équipier modèle et précieux de la Jumbo. Pourquoi, selon toi, il est le héros de ce Tour 2022?
Eh ben parce qu'il sauve un peu le Tour des Français, le Tour de la France. Hein. S'il n'y avait pas eu Christophe Laporte qui gagnait son étape, on aurait été Fanny. Ça n'était plus arrivé depuis 1999. Et surtout, pour moi, Christophe Laporte, c'est un peu le facteur X de ce Tour de France. Rappelez-vous au chrono à Copenhague, le premier, s'il ne tombe pas, il est peut-être maillot jaune du Tour de France, Christophe Laporte. Il avait le meilleur temps au temps intermédiaire. Il a chuté malheureusement. Et si il gagne le chrono, ça change tout le Tour de France parce que c'est son équipe qui a le maillot jaune après derrière. Et ça change tout. Allô.
D'accord, oui, ça change tout. On n'avait pas compris que tu avais terminé ton argument.
Non, j'avais pas fini, mais j'ai cru que ça avait coupé parce que la liaison est pas.
Tu es toujours
en bonne.
Non, tu es toujours à l'antenne. Tu poursuis Christophe Laporte, donc le héros de Jérôme Coppel sur ce Tour de France 2022.
Ouais. Et puis c'est une pièce maîtresse de la Dream Team Jumbo-Visma. Rappelez-vous, c'est lui qui lance les sprints pour Wout van Aert. Wout van Aert, il lui doit un bon petit paquet de victoires. Quand Wout van Aert, il gagne tout seul à Calais, lui, il est derrière en train de freiner le peloton et il termine encore troisième de l'étape. Sur les pavés, il était là. Il était là pour rouler pour Vingegaard quand ils ont perdu Roglic, notamment sur chute. Donc, il roulait dans la vallée et quand on lui donne carte blanche, quand vous êtes dans une équipe comme Jumbo-Visma et qu'on vous donne carte blanche, c'est que vous avez déjà fait vos preuves, c'est qu'ils croient en vous et c'est qu'ils veulent vous remercier. Mais quand on vous fait pas de cadeau dans une équipe comme ça. Si on vous donne carte blanche, c'est que vous le méritez, c'est surtout que vous avez les jambes pour aller gagner. Christophe Laporte, c'est le seul Français avec une victoire d'étape et quand vous atteignez ce niveau-là dans une équipe, c'est que vous avez réussi votre Tour de France et pour moi, il sauve le Tour de France des Français.
Alors, les grandes gueules, très rapidement, est-ce que vous avez été convaincu par Jérôme Coppel, Marie Martineau?
Oui, moi je pense que s'il avait vraiment pu choisir et qu'il l'avait fait avant moi, il aurait pris Valentin Madouas, mais par défaut, il a dû se changer.
Oui, donc c'est ça, c'était juste pour nous placer que toi c'est Valentin Madouas. Mm-hmm. Que
tu peux enchaîner si tu veux.
Non, mais je vais quand même demander à Christophe, le compère de Jérôme, s'il est convaincu ou s'il trouve que c'est un petit peu exagéré.
Non, formidable équipier, effectivement, que Christophe Laporte. C'est pas l'image que je retiens de ce Tour de France, même si évidemment il nous a permis d'éviter de rentrer Fanny à Paris. Donc magnifique et merci Christophe. Mais voilà, c'est un équipier et on aimerait bien, avec ses capacités, le voir presque comme un leader à l'avenir. Mais malheureusement, il n'a pas les capacités en montagne pour un jour espérer de grandes choses. Non, c'est vrai qu'il nous a régalé sur ce Tour de France. Bon, il lui manque encore un peu d'éloquence pour vraiment nous faire frémir un peu. Il manque un petit quelque chose encore à Christophe Laporte. Mais c'est un formidable coursier.
Décidément, ce Christophe Cessieux, il est exigeant. Hein, avec les coureurs, avec le spectacle, avec les rebondissements. Ah là là, difficile à convaincre notre ami. Mais bon, il en a vu tellement aussi des Tours de France. Formidable. Marie Martineau, Valentin Madouas, le héros de ce Tour de France 2022. Onzième du général qui lui
prédit.
Exactement, avant le début du tour. Ouais. Alors, à 36 minutes 50 hein, de Vingegaard. Mais il est entre David Gaudu, quatrième, et Thibaut Pinot, quinzième. Beau tir groupé de la Groupama, tout de même.
Mine de rien. Oui, je vais lui décerner le maillot de l'abnégation. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai appris à suivre le vélo depuis pas très longtemps et j'ai compris que c'était pas du tout un sport individuel et qu'il fallait des lieutenants. Ce mec-là, Valentin Madouas, a été un lieutenant hors pair. Un coéquipier que j'ai trouvé exemplaire et la quintessence de l'abnégation, c'est-à-dire se sacrifier volontairement soi-même et faire fi de son propre intérêt. Voilà, on a très vite vu que Madouas avait des jambes incroyables et qu'il était capable de faire quelque chose sur ce tour. Preuve en est, il finit 11 du général, tu l'as dit, et pour autant il a été au service de David Gaudu du début à la fin, et que je te descends chercher des bouteilles et que je te les remonte la glace et que je te sauve les fesses dans la montée de Peyragudes, ça n'a pas arrêté. Et on a peu parlé de lui parce que voilà, ça paraît être un peu la normalité dans le cyclisme, voilà, d'avoir des mecs pour emmener le leader au bout. Et donc voilà, j'avais envie de mettre la lumière sur Valentin Madouas qui en plus ne tarit pas d'éloges au sujet de David Gaudu et nous dit aujourd'hui qu'il faudra faire avec David Gaudu dans les années à venir. Il a l'air d'être le coéquipier que tu rêves d'avoir.
Justement, Jérôme, toi t'as été leader. Valentin Madouas, il a surpris tout le monde, hein, on va pas se le cacher. À quel point c'est important d'avoir des équipiers pareils?
C'est primordial. Tous les grands leaders d'équipe ont un équipier sur qui compter. Pour David Gaudu, c'était Valentin Madouas. Je crois que Marie l'a très bien expliqué. Sans Valentin Madouas, David Gaudu ne serait pas quatrième du Tour de France aujourd'hui. Il l'a dit lui-même, hein, David Gaudu, l'étape du Granon. Si Valentin est pas là, si mes coéquipiers sont pas là, je termine à 20 minutes. Il n'y a pas de victoire ou de bon classement au général sans une bonne équipe et sans un coéquipier qui est extraordinaire. Pour Vingegaard, bah, c'est Van Aert, il en a plusieurs. Et pour David Gaudu, c'est Madouas.
Ouais. Et justement, il a en plus compensé le fait que Thibaut Pinot, qui était annoncé comme oui. le lieutenant de et le l'ange gardien, c'est comme ça que l'avait appelé Marc Madiot, qui devait donc être l'ange gardien de Gaudu dans la montagne, et ben il n'a pas rempli son rôle puisqu'il a joué sa carte personnelle en essayant d'aller chercher des victoires. Et heureusement, effectivement, que David Gaudu a eu Madouas à ses côtés et également qu'il a eu aussi Van Aert pour le ramener plusieurs fois sur le peloton. Il lui a sauvé les fesses lui aussi plusieurs fois. Madouas, on n'oublie pas qu'il termine en plus 11e du Tour de France, c'est-à-dire que en jouant le rôle d'équipier, il fait un classement. C'est tout simplement
on avec pas, une on deuxième dit, place sur une étape.
On n'oublie pas, on l'a dit il y a 5 minutes, mon cher Christophe. Tu sais bien, je vois que quand tu bosses pas, t'écoutes pas les grandes gueules du sport, parce que effectivement, le rôle d'équipier de Pinot, on en a beaucoup parlé effectivement hier matin, mais effectivement, Madouas, peut-être que lorsque Valentin Madouas s'est montré aussi efficace, c'est ce qui a permis aussi à Thibaut Pinot de, je sais pas, de prendre sa liberté un petit peu et d'aller chercher des
oui, peut-être bien.
De tenter des victoires d'étape.
Tout à fait, c'est
là où il serait plutôt resté avec Gaudu. Marion Bartoli, on ne t'a pas entendu. Oui. Quel est le héros de... Alors pour toi, Wout van Aert, un choix qui fait un petit peu plus consensus quand même, j'imagine.
Oui, mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est sa polyvalence. J'ai trouvé sa polyvalence juste subjugante. Je pensais pas qu'il avait cette capacité à grimper. Et il l'a montré à plusieurs reprises. Quand il passe en tête du col à Spandel, il passe deux grimpeurs. Il passe devant Thibaut Pinot et Martinez. La dernière ascension du Haut Atacam, il s'est payé même le luxe de mettre Pogacar en difficulté. Pour moi, cette capacité à la fois à attaquer dès le kilomètre zéro et à partir comme une flèche, quoi qu'il arrive à chaque étape. Donc, avoir beaucoup de jus et imprimer mais beaucoup de rythme et cette capacité à monter, et ça il a fait du début jusqu'à la fin du tour. J'ai trouvé que c'était quasiment celui qui avait pratiqué le plus d'efforts aussi régulier, encore une fois, sur toutes les étapes. Cette vista dont il a fait preuve, ce dynamisme, cette capacité à grimper, franchement, il m'a étonné. Ce genre de coureur avec cette morphologie là il est plutôt dans le groupe Eto, il se met à une demi-heure et puis il attend sur des courses qui vont plus lui convenir. Lui, il a pas du tout fait ça. Il est parti à chaque fois, dès le début, il a attaqué très fort. Et finalement, c'est lui, je trouve, qui a le plus animé ce tour. Bon, il finit avec le plus de points sur ce qu'est Marie qui l'a dit tout à l'heure, ou Jérôme. Effectivement, sur ce Tour de France, pour moi, c'est celui qui m'a le plus impressionné par cette polyvalence. Et je pense qu'il en a subjugué beaucoup. Et à mon avis, on va le retrouver quand même dans les années suivantes avec cette capacité d'aller titiller Vingegaard et Pogacar. Et je pense pas qu'il va faire systématiquement que, entre guillemets, le coéquipier modèle pour Vingegaard et va être capable, pourquoi pas, d'aller le remporter ce Tour de France, tellement il a montré de qualité et démontré des qualités, encore une fois, sur un spectre extrêmement large.
Ce Tour de France, j'ai bien entendu, Marion, tu penses que le Belge en est capable un jour? Alors Christophe, Jérôme, je suis obligé de me tourner vers vous. Je suis pas sûr que vous soyez d'accord avec ça, si.
J'ai pas écouté parce que j'écoute pas bien.
Ça y est.
J'étais en train d'envoyer des textos.
Est-ce que Wout van Aert peut remporter le Tour de France un jour? C'est l'avis de Marion.
C'est le gros sujet. Ça a été le gros débat durant toute la semaine. Je sais que Jérôme et Cyril sont convaincus qu'il ne pourra pas le faire. Je sais pas, parce que le problème, c'est que pour remporter le Tour de France, il faut qu'il perde 4 à 5 kilos. Or, quand on le regarde, on n'a pas l'impression qu'il puisse perdre le moindre kilo, mis à part s'il perd un os. Et puis, en plus, il y a aussi cette mentalité. Wout van Aert, c'est un garçon, un peu comme Julien Alaphilippe, qui ne pense qu'à mettre des coups de pétard un peu partout. C'est le cyclisme champagne. Et si tu veux essayer de remporter le Tour de France, tu peux pas avoir ce genre de comportement. Il faut que tu sois toujours aux aguets, à surveiller ce que va faire ton rival, à rester dans les roues, à ne pas attaquer tout le temps. Or, je pense que Wout van Aert, c'est pas le cyclisme qu'il aime, et je pense qu'il sera beaucoup mieux à rester comme ça, maillot vert et grand combatif du Tour de France.
Et toi, Simon?
Mais tu sais, Christophe, moi, j'ai... pardon, excuse-moi Marie.
Non,
juste sur le contre-la-montre qui remporte, il y a un article qui est extrêmement bien fait, en tout cas j'ai trouvé, qui est sorti dans nos confrères de l'équipe, qui explique justement tout ce que fait en amont la Jumbo-Visma pour, en termes de reconnaissance, en termes de préparation. Enfin, j'ai trouvé le professionnalisme juste poussé à l'extrême et au bout des ongles de chaque détail pour les coureurs qui comptent le plus dans leur équipe. Et je pense qu'à travers cette équipe-là, il peut vraiment se développer encore et pourquoi pas justement effectivement canaliser un petit peu cette fougue qu'il exprime sur sa manière de courir, mais le canaliser. En tout cas, je pense pas être la seule à avoir ces arguments-là. J'ai pu lire par d'autres spécialistes du vélo qui ont exprimé cela aussi. Alors après, peut-être qu'il le fera pas, mais en tout cas, je pense quand même qu'il en a, pourquoi pas, la capacité.
Van Aert élu super combatif de ce Tour de France 2022 et qui sera encore l'un des favoris pour l'arrivée sur les Champs-Élysées cet après-midi, lui qui s'était imposé l'an dernier, on le rappelle.
Alors, et toi Simon, tu nous as rien dit, j'imagine que tu as une petite préférence quand même.
Et moi, s'il n'avait pas été choisi, j'aurais choisi Valentin Madouas, effectivement. Ah. Je ne sais pas, on pourrait... Il y a eu le Danois Kort Nielsen qui nous a fait rêver quand même,
avec sa
belle moustache. Bob Jungels quand même, la renaissance de Bob Jungels, c'est quand même pas mal pour la seule victoire d'AG2R dans ce tour. Et justement, tout à l'heure, on regardait le classement général avec Pierre Amiche, notre producteur, en préparant l'émission. Et vous savez que la lanterne rouge, c'est Caleb Ewan de ce Tour de France. Est-ce que vous savez qui est l'avant-dernier de ce Tour de France? Christophe, Jérôme?
Non, je sais pas. J'ai pas regardé les classements.
Mais Caleb Ewan va partir en vacances avec la
sponsor. Alors Caleb Ewan va gagner des vacances avec un sponsor qui a choisi de récompenser le dernier. Donc
c'est un Espagnol l'avant-dernier, non?
De la Movistar exactement. Albert Torres, il est à 5h36 de Jonas Vingegaard. Donc voilà, on parle toujours du dernier, jamais de l'avant-dernier. Donc c'est mon héros de ce Tour de France 2022, Albert Torres, avant-dernier de ce Tour 2022. Je vous félicite, vous avez bien travaillé. Les grandes gueules, effectivement, des héros divers et variés. Voilà la preuve qu'on a eu une belle course et qui a su mettre en valeur différents profils. On s'est régalé, en tout cas, avec vous, messieurs, Cessieux, Coppel, Guimard, Pierre-Yves Leroux, Arnaud Souk, les reportages de Julien Richard, Kevin Morand. Effectivement, RMC, c'est vraiment la référence pour le Tour de France à la radio. Merci beaucoup, messieurs, encore une fois. On va vous retrouver cet après-midi dans l'Intégral Tour. Et puis, vous nous réveillez, Cyril Guimard, on a besoin de lui. Pour les grandes gueules du sport tout à l'heure. À partir de 11h, on passe la seconde, on va faire un petit peu le bilan des Français cette fois-ci. Je crois que notre druide n'est pas très tendre avec nos coureurs tricolores. J'ai l'impression qu'il a envoyé 2-3 cartouches quand même dans les émissions. Donc on se demandera avec lui si le cyclisme français est en crise ou si au contraire il faut croire en l'avenir. Merci beaucoup messieurs, on vous retrouve évidemment cet après-midi sur l'antenne. Vous les auditeurs, vous restez bien avec nous parce que les grandes gueules reviennent dans un instant. Il est déjà l'heure de votre ration de zapping, on s'en fout, on s'en fout pas. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
À 9h50, vous êtes bien sûr à RMC, c'est le retour des grandes gueules du sport dominical. On est ensemble en direct jusqu'à midi, en compagnie aujourd'hui de Marie Martineau, Marion Bartoli et des membres de nos Dream Team respectifs qui se succèdent à l'antenne. À 10h, on accueillera Jean-Luc Roy, notre spécialiste des sports auto à RMC. Grosse page mécanique à venir en ce jour de Grand Prix de France au Castellet. On se demandera si, comme Esteban Ocon, le pilote alpine, vous pensez que notre Grand Prix national est vital pour le sport auto français. Mais pour l'instant, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Grand et bon débat, dit petit zapping. Vous connaissez le principe, on va pas s'en plaindre. Je vous donne une info, vous me dites si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Et si ça n'intéresse personne, on zappe, on passe à la suivante. Marion, Marie, première info, finalement, pas de sélection chinoise dans notre championnat de France de volleyball. On s'en fout, on s'en fout pas, Marie?
Je m'en fous pas.
On s'en fout pas, Marion?
Ah bah non, je m'en fous pas.
Le ministère
on avait des arguments la dernière fois.
On en a effectivement beaucoup parlé dans les GG. Le ministère des Sports a invité la Ligue de Volley à revoir sa copie. Le projet d'intégration de la Chine, 17e nation mondiale au championnat de France de volleyball la saison prochaine, doit être, je cite, retravaillé. Le ministère n'aime pas tous les éléments de notre projet et aimerait que nous en changions certains, a déclaré Yves Bouget, le président de la Ligue nationale. Selon le projet initial dévoilé début juillet, l'équipe de Chine devait intégrer pour 2 saisons la Ligue A et prendre ses quartiers dans le
pas toi, Simon, qui étais pour ?
Dans une ville française, vous me laissez terminer, s'il vous plaît, à définir, afin de préparer les Jeux Olympiques 2024 de Paris, et ce, en échange d'une indemnité d'environ 2 millions d'euros. C'est ce qu'a précisé hier Yves Bouget. Oui, alors moi, j'avais trouvé des arguments, effectivement, pour tenter d'expliquer, de justifier, effectivement, l'intégration de la Chine. Dites-moi pourquoi vous intéressez à cette info et pourquoi, effectivement, vous semblez plutôt satisfaite, Marion.
Bah, c'était juste une mauvaise idée, en fait.
D'accord.
Donc, voilà. Tu sais, on l'avait exprimé la dernière fois avec Marie. Enfin, on voyait aucun intérêt à ça. Et encore une fois, c'était uniquement l'intérêt financier pour sauver le volet. Cet argument-là, je peux parfaitement l'entendre. Mais en fait, les sommes proposées n'allaient pas aider les clubs. Donc, c'est là où ça me gênait fortement. Donc, en fait, on prenait nos ressources en France, on prenait un entraîneur français, on jouait contre nos équipes françaises pour éventuellement, peut-être un tout petit peu les épier ou pas, ça c'est encore à définir. Mais du coup, les clubs français ne bénéficiaient pas vraiment d'un apport financier qui allait leur permettre de soit se sauver, soit de faire, voilà, d'avoir un budget plus important. Donc, je voyais aucun intérêt à ce projet-là.
Marie.
Moi, je crois que c'est une question d'image, parce que là, on parle du fait que le ministère des Sports a refusé le projet tel qu'il est écrit. Question d'image. Imaginez le tollé, l'aveu de faiblesse de dire OK, on n'est tellement pas au niveau pour aider une fédé comme une fédé aussi importante que celle de volley, qui a quand même en son sein l'équipe championne olympique, que on est obligé de faire appel à la Chine, appel ou pas, enfin, ou d'accepter la proposition indécente faite par la Chine et d'intégrer les Chinois dans une compétition franco-française. Très très bizarre. Et puis ça aurait pu être une sacrée jurisprudence et ouvert la porte à toutes sortes de projets aussi farfelus que celui-ci. Donc je crois que de toute façon il était inconcevable que le ministère des Sports fasse autrement que de l'ordre que les retoquer, quoi.
Oui, on aurait pu imaginer aussi, ça n'avait pas été évoqué dans notre débat, mais que, je sais pas, un processus d'intégration, on aurait pu placer, je sais pas, trois joueurs de la sélection chinoise dans chacun des clubs du championnat de France, j'en sais rien.
Oui, peut-être qu'ils vont revoir leurs copines dans ce sens-là.
Ça pourra peut-être faire partie du nouveau projet que le ministère des Sports
On se réjouit en tout cas de la décision.
Oui, j'ai compris que vous étiez bien protectionniste et que vous ne vouliez pas de la Chine en championnat de France.
C'est ça.
Effectivement. Petit zapping, je vous l'avais annoncé. Peut-être que dans le deuxième zapping tout à l'heure, je vous parlerai de Neymar et Galtier, hein, au PSG.
Yes.
Neymar veut rester au PSG.
Ça nous intéresse.
Et Galtier ne sait pas encore si Neymar ne peut pas encore nous assurer que Neymar sera au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Et puis il y a les débuts, bon, plutôt timides, mais pas encore désastreux de Kevin Mayer hier. Au décathlon, au championnat du monde d'athlétisme de Eugene qui se termine ce dimanche. Vous restez bien avec nous, les grandes gueules reviennent dans un instant. Après les infos, on prendra la direction du Castellet qui accueille aujourd'hui le Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard. Oui, mais jusqu'à quand? On en parle tout de suite sur RMC.